entrée dans la vie active, pensez à préparer votre retraite avec Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Se sentir trahi, échouer à un examen, se voir refuser une promotion, découvrir l'infidélité de son partenaire, les sources de déception sont multiples. Et passer le choc ou la surprise, peuvent survenir un flot d'émotions, amertume, colère, rancœur, mais aussi tristesse ou abattement. Dans certains cas, cette déception va même évoluer vers des troubles, des maladies, l'anxiété ou la dépression. Pourtant, ces espérances déçues font partie de l'existence à tout âge. En comprenant les sources, en décryptant les sentiments qu'elles génèrent, il devient possible de surmonter ces déceptions, apprendre à renoncer, ne pas investir une relation de façon excessive, éviter de retomber dans les mêmes pièges, faire de la déception un tremplin pour transformer les épreuves en expériences. Et faire de la déception un tremplin, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez signé. Pascal Chapeau-Morelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue chargé d'enseignement à l'Université Paris 8. Ouvrage coécrit avec Eugenio Murali, publié aux éditions Albin Michel. Et Priorité Santé vous permet de gagner un exemplaire de ce livre pour tenter votre chance. Rendez-vous sur le compte Facebook de l'émission. En deuxième partie de Priorité Santé, nous serons en ligne avec le Congo. On retrouvera Michel Dzalamou, psychologue clinicien, psychothérapeute et praticien hospitalier au CHU de Brazzaville. À la fin de l'émission, on retrouvera le bulletin de santé, tour d'horizon de notre actualité de la semaine, co-présenté aujourd'hui avec Juliette Rangeval, avec à la une en France le coup d'envoi d'une série de chantiers dans le domaine de la santé, et puis plusieurs ONG qui ont rapporté des cas d'agressions sexuelles commises par leurs employés après le scandale Oxfam en Haïti. Et puis bien sûr, votre numéro, notre numéro pour témoigner, pour poser toutes vos questions, 33 1 84 22 75 75. Alors faire de la déception un tremplin, on va le voir, cette capacité à surmonter un espoir, une expérience déçue, c'est un véritable cheminement. Cela ne se fait pas tout de suite. Et Pascal Chapeau-Morelli, on va commencer par définir cette fameuse déception. C'est quoi être déçu ?
Alors la particularité de la déception, c'est que non seulement c'est un événement, comme on peut s'en douter, une situation dans laquelle on se trouve, mais c'est aussi tout un parcours et toute une succession et même un flot d'émotions qui vont nous submerger. C'est à la fois ce que nous allons en ressentir et ce qui nous est arrivé. C'est quelque chose que l'on intériorise en quelque sorte.
C'est plus qu'un échec simple. Il y a tout ce qui l'entoure, ce qu'il y a eu avant.
Oui.
On a investi quelque chose, l'échec en tant que tel, et ce qui va venir après.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est tout un tableau d'ensemble. Et évidemment, ce qui est très important, c'est la façon dont on réagit, dont on peut réagir, mais c'est aussi ce que l'on a vécu avant, notre histoire, parce que ça va quand même impacter la façon dont nous allons justement réagir à cet événement ou à cette situation.
Alors, dans votre livre, vous développez plusieurs pistes pour dépasser justement cette déception, mais on peut dire que de toute façon, il y a de la douleur, Pascal Chapeau-Morelli, parce que quand on abîme notre confiance, ça fait mal, forcément.
Oui, ça peut avoir effectivement des conséquences sur l'estime de soi, sur la façon de voir le monde, de voir telle personne, sur la représentation que l'on a ou que l'on avait de telle personne, mais même du réel. Ça peut remettre en question notre vision du monde ou des gens, des personnes en général. Souvent après une déception amoureuse, par exemple, les gens disent « Ah, je n'ai plus confiance ». En autrui, je n'ai plus confiance dans les autres, dans les hommes ou les femmes, c'est selon.
On a des expressions populaires quand on dit « le monde s'est écroulé ». Ça veut dire qu'il y a des choses à reconstruire après tout ça. C'est un cataclysme pour certaines personnes, une séparation. Ça peut tout remettre en question pour certaines personnes.
Oui, ça peut même être un événement vécu comme traumatique. C'est-à-dire avec un moment de sidération où la personne ne trouve plus ses mots et comme figée. dans cette douleur avant de réagir. Donc ça peut effectivement faire éventuellement donner lieu à une situation de traumatisme.
Et vous parlez même des mystères de la déception, Pascal Chapeau-Morelli. Qu'est-ce que ça veut dire, mystère de la déception ?
Parce qu'on ne sait pas trop. D'abord, on ne sait pas soi-même ce que l'on ressent au moment où l'on est déçu. On arrive difficilement à décrypter ce qui nous est arrivé, comment on y réagit et ce que l'on va éventuellement pouvoir faire. C'est d'ailleurs l'objet du livre. Et le mystère est que on ne peut pas décortiquer jamais totalement notre vécu et parfois même, ni même ce qui nous arrive. Et il y a toujours cet aléa, comme dans l'amour, en somme, une part qui va rester presque inconnue, ou en tout cas très très difficile à aborder. Mais il ne faut pas avoir peur de creuser.
Et en tout cas, on le voit, il y a de nombreuses circonstances qui peuvent générer justement ces déceptions. L'amour, on en a parlé déjà, on va en parler beaucoup bien sûr, c'est fondamental. Il y a aussi les déceptions professionnelles, les déceptions familiales, être déçu par exemple par une sœur, par un frère.
Oui, effectivement, là, c'est quelque chose qui a une conséquence sur la personne parce que il y a un lien auparavant extrêmement fort et un lien qui est censé perdurer et même au-delà d'un désaccord ou d'une déception ou même d'une rupture. C'est-à-dire que si l'on rompt les liens, le contact avec un frère ou une sœur, il ou elle n'en reste pas moins notre frère ou notre sœur. Et ça peut être tout à fait inconfortable, mais également le fait que ce lien sous-jacent reste va nous permettre peut-être de reprendre le fil. Vous savez, comme on reprend un fil d'Ariane et de remonter, et au bout d'un certain temps, quelques semaines, mois ou années, de reprendre le contact et d'arriver à démêler cet écheveau émotionnel dans lequel on s'était trouvé au début.
Alors, gérer les déceptions, ça s'apprend, hein, c'est ce qu'on comprend en lisant votre livre, Pascal Chapeau-Morelli. Et ça s'apprend d'ailleurs dès le plus jeune âge, dès l'enfance.
Alors, de l'enfance, il est important de se trouver face à des frustrations. Ces frustrations donnent lieu à des petites déceptions, puisque l'enfant, si on ne répond pas à son attente immédiatement, si on ne lui achète pas ce qu'il demande, si en somme on lui oppose des non, N-O-N, des refus qui sont justifiés, évidemment, et éventuellement expliqués, eh bien, cet enfant se trouve face à des frustrations. Il le vit, il ou elle le vit comme une déception. En réalité, il apprend à ce moment-là. Il apprend à gérer les situations, à gérer le monde, à réagir et à supporter, surtout, ses frustrations. Ça va l'aider à l'âge adulte, énormément.
L'apprentissage passe aussi par quelques petits caprices et quelques petites scènes quand les enfants se roulent par terre. Mais il y a des choses beaucoup plus graves, hein, des illusions qui peuvent mener à des dépressions. Quels en sont les symptômes majeurs, Pascal Chapeau-Morelli ?
Alors, les premiers symptômes, c'est la perte du désir, la perte de l'envie. L'envie de faire, l'envie de voir, l'envie de sortir, l'envie de rencontrer et d'avoir un contact avec l'autre. Ça, c'est vraiment un premier indice. Le fait que l'on se renferme sur soi-même et que l'on s'isole. Mais il peut y avoir aussi des troubles psychosomatiques, des douleurs même au dos, des troubles au niveau intestinal, par exemple. Et des tas d'autres choses, d'autres manifestations. Il y a également la perte de confiance en soi. On se sent nul, capable de rien. Et donc, il y a un renoncement. On renonce à tout. On renonce aussi à soi-même dans ces cas-là.
Dévalorisation, ces gens qui n'arrivent plus à quitter leur lit. Vous restez avec nous, hein, Pascal Chapeau-Morelli. Racontez ces expériences, justement, vous le conseillez dans votre livre, en parler pour dépasser ces problèmes. Et c'est justement ce que Priorité Santé propose de faire à ses auditeurs.
Priorité Santé sur RFI.
Et ce premier auditeur, c'est Jibi qui nous appelle de Paris. Bonjour Jibi.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute.
Je suis originaire en fait de la Centrafrique, donc je suis venu en France suite au conflit en fait qui se déroulait dans mon pays. Donc en 2005, je suis arrivé, j'ai fait une demande d'asile, en fait j'ai été débouté. Donc, ma demande n'a pas abouti. Et pendant 10 ans, j'ai vécu en fait diverses expériences de la déception à travers mon vécu en fait.
Avec ces échecs administratifs qui se répercutaient, qui se répétaient, est-ce que justement, à un moment donné, vous avez pensé baisser les bras et pourquoi pas même renoncer et retourner en République centrafricaine ?
Bon, retourner, c'était impossible pour moi, aller dans un autre pays d'Afrique, oui, ça j'ai pensé à plusieurs reprises, mais il y avait autre chose aussi, parce que en 2008, j'ai m'étais marié avec ma première femme, qui était à la fin de ses études en psychologie, et donc on a fait un an de mariage, et puis on s'est séparés, et là, c'était un grand choc pour moi. Parce que en fait, entre autres, ma vie administrative ici en France, socialement, je n'existais pas en fait. J'ai été débouté, je vivais sans papier, il fallait trouver les moyens pour pouvoir rebondir, travailler, garder la tête droite, avancer dans la vie. Et en plus de ça, en fait, j'ai une déception amoureuse qui tombait par-dessus. Ça en faisait trop, en fait. Et vraiment, par moments, oui, c'est pénible même, pour ne pas le dire. C'est vraiment physique et moral, en fait.
Alors, le récit de ces épreuves, est-ce que vous avez réussi personnellement à les dépasser ?
Personnellement, oui. En fait, le leitmotiv, c'était à partir du moment où j'ai eu ma déception amoureuse. C'était suite en fait à un mensonge classique dans un couple, et puis finalement j'ai perdu confiance en moi au départ, et pendant un an donc je vivais reculé, et au bout d'un moment je me suis dit non, il faut aller de l'avant, et puis je me suis fait mal, j'ai surmonté les épreuves qui étaient devant moi, que ça soit sur le plan social, que ça soit sur le plan affective. Il fallait vraiment que je fasse tout, parce que derrière j'ai des responsabilités, j'ai mes parents qui attendent beaucoup de moi, et aussi par rapport à mes entourages, par rapport à mes amis, là où je vivais, j'avais une vie qui était quand même assez aisée, donc il fallait que je fasse quelque chose. Oui, ça m'a permis vraiment de travailler sur moi-même de manière très concrète, de pouvoir sortir, de rencontrer des gens, je me suis investi dans des études à distance. Je travaillais en fait en plus de ça avec une autre identité pour pouvoir payer mes études et aller de l'avant. Et ça m'a, franchement, ça a forgé ma personnalité, et ça m'a permis aujourd'hui d'avoir pleinement confiance en moi et de développer vraiment un savoir-être dans le milieu social, en fait.
Merci beaucoup, Djibi, pour ce témoignage. Pascal Chapeau-Morelli, qu'est-ce que suscite chez vous, justement, ce récit ? On voit que à chaque épreuve, cet auditeur s'est appuyé sur une nouvelle ressource pour continuer, pour aller plus loin.
Oui. Alors, d'abord, Djibi, effectivement, semble posséder les bonnes cartes pour surmonter des situations de ce genre. Il y a effectivement des gens qui sont stimulés par les obstacles. Ça existe. Ces gens-là, effectivement, une capacité de résilience assez forte. Il y a des choses très intéressantes, évidemment, dans le récit de Djibi. Par exemple, avec les problèmes de demande d'asile ou des choses comme ça, il y a souvent un problème d'identité. Et Djibi le dit très bien, je n'existais pas, a-t-il dit à un moment donné. Et c'était un moment donc difficile, parce qu'il fallait qu'il acquiert ou qu'il se transfère dans une nouvelle identité, une nouvelle vie, mais bien plus que ça même, une nouvelle identité, notamment qui passait par la demande d'asile et l'acceptation de cette demande qui lui a été refusée, donc si bien compris, pendant un certain temps. Une autre chose intéressante aussi, typique des personnes qui vivent une déception dans le domaine sentimental, puisque lors du premier mariage, qui n'a duré qu'un an, il y a eu ce mensonge et puis la rupture, et juste après dire que il y a eu ce mensonge qui avait provoqué cette crise du couple, Djibi nous dit: j'avais perdu confiance en moi au départ. Et ça, c'est typique, voyez, une personne vous ment, on pourrait dire, la réaction c'est de dire: j'ai perdu confiance en cette personne. Il a perdu certainement confiance en cette personne, mais tout de suite la réaction c'est de perdre confiance en soi également, comme si en somme on intégrait l'agir de l'autre et que ça nous remettait nous en question, alors que ça remet a priori dans ce cas-là en tout cas l'autre en question. Et c'est intéressant puisque c'est là qu'il y a un moment vulnérable et où la déception devient une attaque à notre propre personne. Ceci dit, effectivement, une personne comme JB a des ressources puissantes pour réagir.
Alors, on va prendre en ligne une autre auditrice, c'est Liliane. Elle est en ligne du Cameroun, de Yaoundé. Bonjour Liliane.
Bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Alors moi, je dirais qu'il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai vécu une grande déception amoureuse. J'avais rencontré un jeune homme quand j'entrais à la fac et notre relation a duré 2 ans et elle s'est terminée. Parce que j'avais découvert qu'il me trompait, qu'il avait une relation avec une autre. Ce qui a été vraiment éprouvant pour moi, c'est que tout de suite après la rupture, je suis entrée dans une très très grande souffrance. C'était vraiment immense. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Je n'arrivais plus à rien. Vraiment, c'est difficile à avouer, mais il y a même des moments où j'ai pensé à me suicider. Un jour, j'ai préparé un cocktail de médicaments et avant de le boire, là, j'ai réalisé que j'aimais vivre, que j'avais envie de m'en sortir. Et je dis toujours que dans mon malheur, j'ai eu de la chance. J'ai rencontré à Yaoundé un groupe de psychologues bénévoles et je suis simplement allée leur parler. Et leur parler, ça m'a vraiment aidée parce qu'ils m'ont aidée à mettre des mots sur ma souffrance. En fait, avant de rencontrer ce jeune homme, je dirais que je n'avais pas de réelle confiance en moi. Je venais d'un foyer difficile, je n'avais pas de père, j'avais une mère qui était très violente. J'étais quelqu'un de timide, de complètement enfermé et je cherchais constamment ma valeur dans les yeux des autres. Et en fait, parler à ces psychologues m'a permis de mettre le doigt sur ce vrai problème et de travailler sur cela, sur la confiance en soi, sur le regard que j'avais de moi, et etc., etc. Ça n'a pas été facile, mais je crois qu'avec le temps, je m'en suis bien tirée.
Ben on l'entend, et l'entend, je vous dire, ça fait plaisir entre le début de votre récit et la fin. Tellement de chemin parcouru, hein, Pascal Chapeau-Morelli. Là, on voit vraiment une évolution avec cette capacité à faire appel aux autres quand on va très mal, c'est très important.
Oui, mais Liliane, qui effectivement s'en est très bien tirée, fait penser forcément, notamment dans sa phrase « Je cherchais ma valeur dans les yeux des autres avant cette relation », qui en fin de compte est venu un bien pour un mal, parce que ça lui a permis aussi d'évoluer, d'être face à elle, non seulement à autrui, mais également face à elle-même. C'est la dépendance affective. Liliane était quelqu'un qui vivait dans la dépendance affective. Et la dépendance affective consiste effectivement en premier lieu à avoir besoin du regard des autres pour être confirmé dans sa propre valeur. Parce que tout seul, on n'y croit pas, en somme. Et donc, on ne croit pas à ses propres capacités, on n'a pas d'estime de soi. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la relation? Eh bien, exactement ce qui est arrivé à Liliane, c'est que probablement, elle en demandait beaucoup à son compagnon, il s'est lassé, elle était, en somme, toujours en quête. Cette relation était peut-être, probablement, un peu bancale dès le départ, parce que ils n'étaient pas, en somme, tous les deux exactement sur la même longueur d'onde.
Et elle l'explique aussi parce qu'elle n'avait personne pour qui s'appuyer dans ses attaches, dans sa famille.
Oui, le fait que Liliane ait eu cette tendance à la dépendance affective, chose qui n'est pas une maladie, hein, et qui arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. L'important, c'est que ça ne nous gâche pas la vie, parce qu'en fin de compte, on peut tous être un petit peu, un jour ou l'autre, un petit peu plus ou moins dans la dépendance affective, ou en tout cas très lié à quelqu'un. Mais la vraie dépendance à quelqu'un, affective, c'est quelque chose qui fait souffrir, c'est un état qui fait souffrir, c'est une façon de fonctionner et surtout une façon de se mettre en lien avec l'autre qui nous détruit et qui détruit la relation. Liliane, à partir du moment où, comme elle dit, elle a pu mettre des mots sur sa douleur et puis la comprendre et comprendre non seulement ce qui lui arrivait, mais comment elle fonctionnait, c'est ça qui lui a permis d'évoluer.
Merci beaucoup. On va se retrouver dans 3 minutes, hein, vous restez avec nous, hein, Pascal Chapeau-Morelli, pour parler de la déception, ou plutôt comment surmonter cette déception. Vous pouvez continuer à nous appeler. Le numéro de Priorité Santé, c'est le 33 84 22 75 75. On se retrouve juste après les informations.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour la deuxième partie de Priorité Santé, toujours consacrée aux émotions, particulièrement aux moyens pour dépasser les déceptions, toujours avec notre invité Pascal Chapeau-Morelli, psychologue chargé d'enseignement à l'Université Paris 8, auteur de l'ouvrage « Faire de la déception un tremplin » avec Eugenio Murali chez Albin Michel. On l'a dit, la déception entraîne toute une succession d'émotions, un enchaînement des émotions qu'il faut savoir identifier, distinguer. Comme par exemple, Pascal Chapeau-Morelli, comment expliquer la différence entre déception et regret ?
Alors le regret, ça peut être plus actif. C'est-à-dire que dans la déception, déjà rien qu'avec le mot, on a l'impression d'un état momentanément passif, où on subit quelque chose. Dans le regret, il y a l'idée que nous aurions pu faire autrement avant. En somme, on aurait pu prendre les devants et assurer ses arrières, voilà. Et puis éviter justement la déception. C'est-à-dire que avec le regret, on se remet dans le passé et on essaye de trouver les façons dont on aurait pu agir pour justement ne pas obtenir cette déception. Donc, on refait un scénario souvent. Et effectivement, ça peut être utile pour ne pas recommencer, justement, ne pas se retrouver dans la même situation et donc revivre le même type de déception.
Alors on le comprend à lire votre livre, « Dépasser une déception, c'est ne pas sombrer dans le négatif après un événement négatif ». C'est pas en rajouter encore, mais justement pour identifier les émotions, est-ce qu'il y a des moyens en fait pour se protéger de ces déceptions ?
Alors, effectivement, d'une part, quand on vit une déception, dans un premier temps, on tombe forcément dans le négatif. Donc, il ne faut pas se sentir coupable d'être dans le négatif ou d'être triste. On a le droit d'être triste. Dans un premier temps, c'est même inévitable. Sinon, on n'aurait pas l'impression de vivre une déception. Ce serait de l'insouciance. Mais comment prévenir une déception, il y a beaucoup de façons à agir préventivement. D'abord, d'une part, on peut essayer de détecter le mensonge. Il y a des façons de ressentir que l'autre nous ment à certains moments. C'est un peu compliqué, mais il y a des indices quand même des indicateurs assez importants. Surtout un ensemble de choses, on va dire, pour bien détecter le mensonge. Il n'y a pas de miracle, de recette miracle ou de geste clé, mais il y a quand même un faisceau d'indices. Et puis aussi savoir détecter les profils, comme ceux dont nous parlons dans le livre, qui sont les Don Juan, les Casanova, au masculin ou au féminin, les hommes Peter Pan, les personnes irresponsables qui vont nous faire penser qu'ils vont nous donner beaucoup, alors qu'en fait, ils vont nous donner peu, même s'ils ne sont pas particulièrement nuisibles. Ils vont quand même nous gâcher la vie, au sens où nous allons être sans arrêt dans une attente qui ne sera pas satisfaite. Mais il y a aussi, si on regarde du côté de soi, entre soi et soi, le fait de ne pas avoir des attentes ni inférieures, ni supérieures à ce que, à ce moment-là, nous pouvons faire. Alors, ce qui est difficile, c'est d'être capable de désirer, d'être capable d'agir et de se poser des défis tout en étant quand même dans un système de réalité, avoir le sens du réel, c'est-à-dire ne pas aspirer à trop au moment où on ne peut pas justement atteindre ce niveau. Mais en même temps, ne pas être trop bas non plus, parce que sinon après on est déçu par soi-même de la même façon.
Parce que vous nous parlez de déceptions, on peut dire sentimentales surtout, mais il y a aussi des déceptions très concrètes. On imagine, on demande une promotion à son employeur, on demande une augmentation, un changement de poste parce que on en a assez, et là on est déçu. Il y a quand même une part d'estime de soi qui va être abîmée, et là c'est difficile de surmonter ce genre d'épreuve.
Oui, effectivement, dans le domaine professionnel, dans tout domaine, mais dans le domaine professionnel peut-être en particulier, d'autant plus qu'aujourd'hui, le domaine professionnel est important, le métier, l'exercice du métier est important dans notre vie. Mais de deux choses l'une, à un moment donné, dans une telle situation, par exemple d'une promotion non obtenue, alors soit on se demande si on peut rester dans ce poste, comment, et est-ce qu'on va pouvoir progresser malgré cette promotion qui n'est pas arrivée, ou alors est-ce qu'on va avoir envie, est-ce qu'on va pouvoir changer? Et effectivement, après une situation comme celle que vous venez de citer, il y a des gens qui changent de voie, qui se disent « bon, puisque c'est comme ça, je vais faire autre chose ». Et ça marche. Mais il faut faire des formations, il faut se préparer. Ça aussi, c'est très important. C'est comme un grand sportif, il n'arrive pas au top niveau, là on est dans le moment des Jeux Olympiques, ce sont des gens qui se sont préparés pendant des années et qui ont vécu des échecs. Ils ont vécu un insuccès, ils ont perdu parfois. Pour gagner, il faut arriver à perdre souvent avant. Et c'est la préparation qui compte.
Vous restez avec nous, Pascal Chapeau-Morelli. On va partir tout de suite pour Brazzaville.
Priorité santé sur RFI.
Et au Congo, on retrouve Michel Zalamou. Bonjour.
Bonjour Corinne Caroline.
Vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute et praticien hospitalier au CHU de Brazzaville au Congo. Alors pour quel type de déception, Michel Zalamou, vos patients viennent-ils en consultation?
Oui, en tout cas dans l'expérience que j'ai depuis une trentaine d'années, tous les patients qui arrivent en consultation présente pratiquement quelque part quelques dépressions, plutôt des déceptions. Bon, les déceptions les plus en vue dans notre milieu, ce sont les déceptions familiales, parce que tenant compte de la complexité de relations familiales en Afrique et notamment dans notre pays. Donc les déceptions familiales, les déceptions familiales sont très nombreuses parce que la famille, c'est la base de la formation de la personnalité des individus. Il y a là-dedans des problèmes d'héritage, d'un parent par exemple qui meurt et qui était le soutien familial des enfants, et là ça cause des dépressions profondes lorsque les enfants ne puissent pas bénéficier de ce que papa a laissé comme héritage. Ça peut également être, nous recevons des cas qui ont une déception profonde à cause de l'état de santé des parents, qu'on va imaginer que bientôt ils vont mourir, qu'est-ce qu'on va devenir. Donc, il y a une grande déception dans ce sens, et surtout également les mésententes familiales, les conflits intrafamiliaux, la contradiction, tous les conflits qu'on peut avoir avec un frère, un parent, une maman, etc.
Et ils ont du mal à en parler, ces personnes qui viennent vous voir. D'ailleurs, ils viennent vous voir parce qu'ils se sentent mal d'un point de vue psychologique, ou peut-être, Michel Zalamou, parce qu'ils sont carrément tombés malades à cause de tous ces problèmes.
Bon, vous savez, les consultations psychologiques sont tellement ici pas encore bien connues comme cela se passe dans les pays développés. Généralement, ces cas passe par des consultations de médecine générale, parce que la déception a dû évoluer jusqu'à installer des symptômes médicalement inexpliqués, des céphalées, des troubles intestinaux qui mettent en mal le soignant qui les reçoit, parce qu'à chaque moment, bon, quand on fait des examens, quand on ne découvre rien, en ce moment, si le médecin a des notions de psychologie médicale ou de psychopathologie pour identifier les signes de détresse d'une pathologie sous-tendue par des émotions, eh bien, il nous les oriente. Et en ce moment, d'ailleurs, ça se fait parce que vous avez des médecins qui sont bien sensibilisés dans ces problèmes de santé mentale qu'on intègre déjà dans le système de soins. Donc, il y a les confessions religieuses parce qu'ils reçoivent beaucoup de cas qui sont déçus pour multiples problèmes de la vie et qui se disent peut-être être envoûtés, etc. Donc il faille qu'ils aillent s'exorciser ou aller subir des cures auprès des pasteurs, auprès des thérapeutes religieux. Ben, une fois que là-bas il n'y a pas satisfaction,
ils viennent vers vous.
Par exemple, voilà, ils nous les faire.
Et vous leur proposez quoi comme piste thérapeutique, justement, Michel Zalamou, basée sur la parole? Comment ça se passe? Ils doivent venir sur un long terme? Ils viennent souvent ou c'est des thérapies qui sont assez brèves?
Oui, il y a des thérapies brèves. et les thérapies au long cours. Les thérapies brèves, c'est pour des cas qui nécessitent tout simplement un éclairage de quelques conseils lorsque ce n'est pas lié vraiment à une situation qui exige un long cours. Ça peut être des gens qui font des réactions brillantes à partir d'un état de stress aigu et avec un petit diminution. Alors, en ce moment-là, ils peuvent finalement débloquer et puis reprendre conscience. Bon, mais il y a des cas qui vous présentent des situations très complexes, qui requièrent d'ailleurs une étude de la personnalité même qui réagit à ce qu'il appelle déception. Parfois, ce sont son comportement, sa manière d'être qui déçoit et ils n'en sont pas conscients. Et en ce moment, ils font ça et bien, face à une psychothérapie profonde, au long cours, qui consiste à faire prendre conscience à la personne des comportements, parfois qui sont à l'origine de ces problèmes qu'il vit comme des déceptions. Vous voyez, donc, c'est ça, il y a des déceptions qui causent des traumatismes, parfois anciens, et qu'il faille bien faire des longues
thérapies,
une étude approfondie.
Pour remonter le fil, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avec Pascal Chapeau-Morelli. Merci infiniment, Michel Zalamou. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute et praticien hospitalier au CHU de Brazzaville au Congo. On l'a entendu, et d'ailleurs, c'est peut-être aussi souvent la même chose ici. Se faire confiance, c'est aussi ne plus se rendre responsable de notre propre souffrance. Pascal Chapeau-Morelli, tout à l'heure, au Congo, on parlait de punition, voire de malédiction, mais il y a quand même cette fameuse culpabilité des gens, se sentent punis de choses qu'ils auraient fait, de mauvais choix qu'ils auraient fait, et tout ça, c'est difficile de s'en débarrasser parce que c'est hérité, c'est culturel de génération en génération.
Oui, d'abord je remercie et je salue mon collègue Michel Zalamou. Et puis effectivement, alors oui, souvent le fait de vivre une déception, ça induit un sentiment de culpabilité et puis ça peut dépendre de nos croyances au sens large qui nous emmèneraient sur des chemins de traverse qui se révèlent être des impasses. Et dans ce sens-là, il est très important éventuellement de consulter, de parler avec un professionnel parce que ça va permettre de s'extraire de cette impasse et de nous accompagner sur le chemin qui mènera à la sortie du tunnel. Hérité par au niveau culturel, ça peut effectivement, certaines croyances évidemment sont héritées au niveau culturel, mais disons que même dans une situation où il y a une forte croyance, avec un travail sur soi, on peut arriver à trouver une autre vision de la situation qui ne remettra pas forcément en cause complètement la croyance, mais qui amènera à réfléchir sur la situation spécifique de manière différente. Et ça, c'est important.
Alors, Pascal Chapeau-Morelli, on va donner la parole à un autre auditeur de Priorité Santé. Il nous appelle de N'Djamena au Tchad. Cet auditeur, c'est Nelson. Bonjour, Nelson.
Bonjour, Caroline. Bonjour à notre invité.
Mais on vous écoute. On écoute votre témoignage tout de suite.
Ok, moi j'ai vécu une histoire amoureuse avec une fille. Déjà tout petit, on se fréquentait jusqu'à arriver au niveau du lycée, à l'âge ado, déjà les choses étaient devenues sérieuses entre nous. Malheureusement, cette histoire s'est vite arrêtée lorsque cette fille m'a quitté pour un étudiant en médecine. Depuis ce jour, je me sens en quelque sorte nul en amour. Et je n'ai plus confiance aux filles et cela bloque ma vie sentimentale chez les autres filles. Ça fait depuis déjà 3 ans que je vis avec je ne sais pas comment changer cette manière.
3 ans que vous n'arrivez pas à dépasser cette déception. Est-ce que vous avez une question concrète à poser à Pascal Chapeau-Morelli?
Oui, j'ai une question. Comment sortir cette idée de méfiance de la tête?
De méfiance, hein. Fini la confiance, place à la méfiance. Pascal Chapeau-Morelli. Oui. On a entendu Nelson dire aussi, il n'a pas confiance en les autres, il se sent nul.
Ah ben oui, on le voit à la façon, tout d'abord bonjour Nelson, on le voit au contenu de son discours. Et il nous dit j'ai été quittée parce qu'elle m'a quittée pour un étudiant en médecine. Elle aurait très bien pu, il aurait pu dire elle m'a quittée pour un étudiant en médecine. Comme si c'était quelqu'un
social,
de supérieur à lui et que donc lui serait nul par conséquent, chose qui n'est pas évidemment. Évidemment, mais cela montre quoi ? Cela montre le peu de confiance en soi qu'a Nelson, et qui est probablement quelque chose qui vient de loin et qui n'est pas nouveau et qui était même bien précédent à cette rupture. Forcément, cette rupture pour lui, ça l'a fait tomber de haut, parce que si j'ai bien compris, c'est une relation qui existait depuis l'adolescence, oui. L'enfance même, en tout cas depuis très longtemps. Donc c'était comme un grand boulevard qu'on pouvait parcourir tranquillement et il s'attendait à ce que probablement cela débouche sur peut-être un mariage, en tout cas une union qui continuerait. Et puis ce n'a pas été le cas, donc il y avait une attente très très forte qui avait été construite auparavant. Donc la déception venait de là. Mais Nelson a à travailler sur la confiance en soi, peut-être avec un professionnel. Il faut qu'il sache que l'étudiant en médecine, tout étudiant qu'il soit médecine que ce soit, n'est pas forcément quelqu'un de meilleur que lui. C'est une autre personne.
Nelson, merci beaucoup de votre appel. Le conseil donc de Pascal Chapeau-Morelli, peut-être essayer d'en parler à quelqu'un, un professionnel, pour essayer de démêler, de sortir de cette souffrance, retrouver confiance en vous. Merci beaucoup en tout cas pour cet appel de Djamena. On va prendre un dernier auditeur. Il s'agit de Fortuné du Congo, de Brazzaville. Bonjour Fortuné.
Bonjour madame, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute.
Oui, bon, moi j'ai vécu cette situation, j'avais une femme qui était avec moi, mais la dernière était sortie avec le propriétaire de la parcelle, et la chose m'a fait mal. Quelques temps plus tard, j'ai essayé de forcer avec la dame, le monsieur, en constatant ça, comme nous, on est en train de vivre dans sa parcelle, il a fait recours, comme s'il avait vite compris que moi, j'avais su leur affaire, il est allé me porter plainte à la gendarmerie pour prendre le devant sur cette affaire, ou pour encore ouvrir une parenthèse pour se cacher derrière la situation parce qu'il avait peur de sa femme. On a essayé de résoudre la situation à la gendarmerie. Le monsieur a voulu, il m'a taxé 250 000 francs CFA. À la fin, je lui demande, les gendarmes me demandent de lui remettre l'argent. Je lui ai remis l'argent, la famille dira que non, laissez ça sur moi. Je ne sais, après, j'ai vécu dans une situation chaotique, étant seul avec mes deux enfants, mais quelques temps avec la prière, j'ai quand même essayé de dominer la situation.
Avec un problème donc à la fois financier et puis ce problème de déception sentimentale. Là, pour Fortuné, oui. Pascal Chapeau-Morelli, les ennuis s'accumulent. Malgré tout, il dit qu'il a réussi à dépasser cela.
Oui, peut-être certainement grâce à la présence de ses enfants qui ont dû stimuler, à mon avis, ces réactions. Souvent, pour les enfants, on tient le coup, comme on dit. Aussi bien au moral que au plan concret, financier, par exemple, dans le quotidien. Ça aide. Ça peut être un problème en plus, parce que quand il y a des enfants, effectivement, il y a des conséquences. Mais c'est également, en fait, un grand soutien. Et ça nous oblige à réagir. C'était probablement le cas de Fortuné. Et effectivement, lui, bon, le fait qu'il ait eu cette déception, voilà, ça arrive, si vous voulez. Et ce qui est important dans son cas, quand même, c'est je sens qu'il y a des choses au niveau du mensonge. C'est je pense, ce qui l'a marqué le plus.
Une trahison.
Que des mots justes n'aient pas été dits, ou qu'il n'y ait pas eu la reconnaissance de sa situation, tout simplement à lui.
Merci beaucoup en tout cas Fortuné de cet appel du Congo-Brazzaville. On l'a compris à vous entendre lors de cet échange, c'est vraiment surmonter ces déceptions, c'est un apprentissage progressif et vous le dites, une fois que c'est acquis, ça permet d'une certaine manière de faire face à l'imprévu. C'est une protection en fait.
Oui, et on parlait tout à l'heure aussi de méfiance avec Nelson, qui demandait comment retrouver la confiance. Il est normal, après une déception sentimentale, d'être méfiant envers l'autre sexe. Ça, c'est une situation que vivent toutes les personnes qui ont une grande déception. Mais le fait de comprendre que chaque personne est différente et qu'on va pouvoir recréer d'autres liens, d'autres relations sociales, ne pas se couper complètement du monde social, c'est important aussi. On peut ne pas avoir hâte de recréer un nouveau lien. C'est légitime.
Apprendre et aussi prendre son temps. Hein. Notre échange touche à sa fin, Pascal Chapeau-Morelli. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Je rappelle le titre de ce livre que vous avez co-signé avec Eugenio Murali, « Faire de la déception ». Un tremplin, paru aux éditions Albin Michel. Et on le rappelle, un Priorité Santé vous permet de gagner quelques exemplaires de ce livre. Rendez-vous bien sûr pour cela sur le compte Facebook de notre émission.
Bulletin de santé.
Et on se retrouve pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine. Un bulletin de santé que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Juliette Rangeval, bonjour et bienvenue dans Priorité Santé.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. On va parler d'abord de ces derniers jours qui ont été marqués par une série d'annonces d'organisations humanitaires dans le sillage du scandale qui a secoué Oxfam en Haïti.
Oui, des ONG toujours plus nombreuses, pas forcément irréprochables. Après ce scandale Oxfam, suite aux révélations sur des rapports sexuels monnayés par des employés en Haïti, mais aussi au Tchad, on l'a appris plus tard, et au Soudan du Sud, eh bien, le prix Nobel de la paix sud-africain Desmond Tutu, ainsi que le chanteur sénégalais Baba Mal, ont choisi de renoncer tous les deux à leur rôle d'ambassadeur pour l'ONG britannique.
Et dans le sillage d'Oxfam, d'autres ONG révèlent des pratiques elles aussi délictueuses.
Oui, Médecins Sans Frontières évoque 24 cas de harcèlement ou d'abus sexuels en 2017 et annonce dans la foulée avoir licencié 19 personnes impliquées dans ces agressions.
Autre ONG qui prend les devants, Caroline, en communiquant sur ces faits, c'est l'IRC.
Oui, International Rescue Committee, qui évoque 3 cas d'abus sexuels, cette fois en République démocratique du Congo, l'IRC, présidée d'ailleurs par l'ex-ministre des Affaires étrangères britannique, David Miliband.
Et vous nous emmenez en France maintenant pour une semaine très chargée pour la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn.
Oui, au programme de la ministre, toute une série de chantiers, personnes âgées et dépendances, l'hôpital, les études de médecine, réforme globale du système de santé qu'il reste encore à définir, alors que son coup d'envoi a été donné, c'était mardi, par le Premier ministre Édouard Philippe, avec des première réponse attendue, mais pas avant le printemps, notamment face au malaise des soignants, également au déficit chronique qui affecte les hôpitaux.
Et à côté de ces chantiers qui se dessinent, Caroline, la ministre de la Santé a dû aussi réagir à cette épidémie de rougeole qui sévit actuellement dans l'ouest de la France.
387 cas de rougeole qui ont été recensés depuis le mois de novembre. Samedi dernier, une femme a succombé à Poitiers. Elle avait été hospitalisée, elle avait 32 ans, donc dans cette région de la Nouvelle-Aquitaine. Sur place, ce sont 4 personnes qui se trouvent toujours dans un état grave. Le point avec William Delesseux.
L'épidémie est jugée importante dans cette région par les services de santé. Ils ont recensé près de 300 cas. Un malade de la rougeole peut potentiellement contaminer une vingtaine de personnes. Complications respiratoires ou neurologiques, les conséquences d'une infection peuvent être sévères, voire mortelles. D'après le directeur de l'Agence régionale de santé, le foyer de la maladie part d'une communauté étudiante à Bordeaux. Des sujets qui n'ont pas été vaccinés. Les médecins appellent cela le manque de couverture vaccinale. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, incite donc tous les habitants de Nouvelle-Aquitaine à rattraper le retard ce matin sur France Inter.
Je demande vraiment aux personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont pas fait vacciner leurs enfants de faire un rattrapage aujourd'hui parce que, notamment dans certaines régions de France, la couverture est autour de 70%. C'est le cas dans le sud-ouest. C'est totalement insuffisant pour empêcher une épidémie d'émerger.
Et le chiffre est alarmant, une couverture vaccinale de 70% alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande une couverture à 95%. Il est possible de se faire vacciner à tout âge contre la rougeole, y compris à l'âge adulte. À l'avenir, le nombre d'immunisés devrait augmenter car le vaccin fait partie désormais des 11 obligatoires pour tous les enfants nés après le 1er janvier.
William Delesseux.
Et puis Caroline, il y a une nouvelle étude qui pointe les effets de l'utilisation abusive des antibiotiques.
Oui, elle est publiée dans la revue The Lancet. Elle montre qu'une opération de chirurgie
chirurgies digestives sur 9 dans le monde. On parle simplement d'ablation de la vésicule biliaire ou encore de l'appendice. Eh bien, 1 sur 9 de ces opérations débouche sur une infection. Donc, la raison, trop d'antibiotiques qui augmentent la résistance des micro-organismes.
Aux Pays-Bas, le Parlement a voté une loi en faveur du don d'organes.
Oui, les Néerlandais vont recevoir prochainement 2 courriels leur demandant d'indiquer s'ils acceptent ou non d'être des donneurs potentiels. Après 2 mails sans réponse, eh bien, ils seront automatiquement inscrits sur la liste des donneurs d'organes, un moyen, selon les autorités, de lutter contre la pénurie chronique pour les transplantations qui a provoqué aux Pays-Bas 57 décès au premier semestre 2016.
Manger doucement, eh ben ça fait maigrir. C'est très sérieux, c'est ce que nous apprend une étude japonaise.
Oui, étude qui a été effectuée sur 60 000 personnes qui souffrent d'un diabète de type 2 et qui montre donc que celles et ceux qui mangent moins vite voient leur tour de taille réduire, leur indice de masse corporelle baisser, bref. Prendre son temps à table, c'est prendre le temps de se sentir rassasié. Et ce serait donc, Juliette, une bonne façon de lutter contre l'obésité.
Merci Caroline et à bientôt pour un nouveau bulletin de santé.
Merci beaucoup Juliette Rangeval. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussa Maquet, Sigrid Azeroual aujourd'hui, Didier Bleu, Thibaut Baduel. Lundi, émission spéciale sport et nutrition en direct avec nos chroniqueurs. Stéphane Besançon, nutritionniste, le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport. Toutes vos questions, vous pouvez commencer à nous rejoindre pour les poser, ces questions, notre compte Facebook. Et puis aussi, le numéro, le 33 1 84 22 75 75, à lundi.
Avec Suno Assurance, qui assure votre retraite et vous invite à la préparer efficacement dès aujourd'hui. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.